France Musique. Musicopolis. Entre 1869 et 1887, Saint-Pétersbourg. Cet intervalle de 18 ans entre 1869 et 1887 représente le temps passé par Alexandre Porfirievitch Borodine à travailler sur son opéra Prince Igor. 18 ans, c'est long. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Le 15 février 1887, jour de sa mort, il laisse l'œuvre inachevée. Non seulement inachevée, mais dans un état de désordre difficilement surmontable pour les amis qui restent et qui vont, avec abnégation, tâcher d'en donner une version acceptable, qui sera représentée en 1890. Depuis, des questions se posent sur la version qu'ils ont réalisée. Nous ne démêlerons pas tout en 25 minutes, reprenons plutôt la chronologie. Première étape, 1869. Alexandre Borodine appartient à un petit groupe de musiciens connu sous le nom de « Puissante Petite Poignée » ou « Groupe des Cinq ». Cinq musiciens et à côté d'eux de nombreux amis, musiciens, théoriciens, littérateurs. Dans leur cercle, on parle beaucoup d'opéra, le genre alors le plus prisé. C'est Vladimir Stassov, critique et conseiller du petit groupe, qui suggère à Borodine le sujet d'un poème épique du XIIe siècle, le dit de la campagne d'Igor. Le 30 avril 1869, il lui envoie un scénario pour un opéra en trois actes. « Votre synopsis est tellement complet, répond Borodine, que tout me semble clair et me convient parfaitement. » Mais pourrais-je mener ma tâche jusqu'au bout ? Bah, comme on dit ici, celui qui a peur du loup ne va pas dans les bois. Alors, j'essaierai. Avant de se mettre au travail de composition, Borodine, qui par ailleurs est médecin et chimiste, en vrai scientifique se renseigne sur son sujet. La langue et les coutumes du XIIe siècle, les épopées et les chansons des peuples des steppes, comme les Polovtsiens. Il fait avec son épouse le voyage de Poutliv, en Ukraine, où se déroule l'histoire. Il recueille des mélodies originales transmises par des voyageurs qui reviennent d'Asie centrale et il commence à esquisser et composer quelques morceaux. Le livret oppose deux peuples, les Russes civilisés, menés par Igor, et les Polovtsiens, orientaux et nomades. Référence discrète à l'histoire contemporaine où les tsars mènent une politique de conquête sur les peuples d'Asie. Dans l'opéra, les Polovtsiens essayent d'envahir la Russie et Igor se doit de partir en campagne pour sauver son pays. Il est battu et il se retrouve prisonnier dans le camp de son ennemi Kontchak. L'occasion pour Borodine de faire entendre des danses orientales, exotiques et sensuelles. Borodine a très peu de temps à composer à son opéra, et il ne compose pas dans l'ordre. Sans doute, selon l'inspiration, il s'empare de scènes pour lesquelles il écrit des mélodies plus ou moins achevées, ou même quelques airs entiers. Parmi ses personnages, il a vraisemblablement une tendresse particulière pour Yaroslavna, l'épouse aimante d'Igor, la première à avoir un air. Elle se lamente. « Où sont les jours passés quand mon bien-aimé était auprès de moi ? Ces jours heureux ont fui à tout jamais. » Seul, je me désole du matin au soir. Seul, je pleure toute la nuit. Borodine a confié la voix de Yaroslavna, l'épouse d'Igor, à une soprano. En revanche, la jeune Kontchakovna, fille de l'ennemi Kontchak, amoureuse de Vladimir, le fils d'Igor, sera incarnée par une contralto. Sa cavatine fait aussi partie des premiers numéros mis en musique par le compositeur. Elle attend Vladimir et elle implore la nuit de tomber plus vite. « Oh mon bien-aimé, l'heure est venue, l'heure de notre bonheur est venue. Nuit, tombe plus vite. » Entoure-moi de ténèbres. Au bout d'un an de travail sur son prince Igor, Borodine est découragé. Ça n'avance pas. Il n'a pas assez de temps pour la composition. Il trouve qu'il n'y a pas là assez de drame, pas de mouvement. Pour lui, dit-il à sa femme, un opéra sans drame, au sens strict, n'est pas naturel. Il arrête tout. Il pense recycler toutes les esquisses et les numéros déjà écrits dans de nouvelles œuvres, sa deuxième symphonie par exemple. Avec trois amis du groupe des cinq, il est également chargé de composer la musique d'un opéra-ballet, Mlada. Il est chargé du quatrième acte et à l'occasion d'une maladie qui l'oblige à garder la chambre, il trouve le temps d'écrire toute sa partie. Mais le directeur de théâtre qui devait monter l'ouvrage fait faillite et tout tombe à l'eau. En 1874, un de ses amis le convainc que le sujet de Prince Igor est vraiment ce qui peut le mieux lui convenir. Borodine reprend son œuvre et modifie le livret pour y faire entrer la musique de Mlada. Oh! Borodine a de multiples activités professionnelles. Il a dû aussi reprendre les cours d'un professeur démissionnaire à l'Académie de médecine, avec toute la préparation que cela implique. Au milieu de ses travaux académiques et scientifiques, des commissions, comités et assemblées diverses, il se plaint de n'avoir que bien peu de temps pour s'occuper de musique. À côté de rebutantes tâches administratives, il s'occupe aussi de l'enseignement en médecine des femmes, pour lesquelles il a créé un cursus. Il y trouve, dit-il, des satisfactions conformes à ses sympathies morales. Dans une lettre adressée à une amie en avril 1875, Borodine essaye d'expliquer les difficultés qu'il a à composer. « Je suis comme un phtisic, écrit-il, qui, respirant à peine, songe à faire une cure de lait de chèvre, à voyager dans le midi, à courir les prairies émaillées de fleurs. Moi, je songe à écrire un opéra. Mais entre un phtisic et moi, quelle différence ? Le malade pourra suivre ses aspirations si la santé lui est rendue. Tandis que moi, je n'ai plus d'autre espoir que de tomber malade. En effet, quand je suis cloué à la maison par une indisposition, que je ne puis me livrer à mes travaux ordinaires, que ma tête se fend, que mes yeux pleurent, que je dois prendre à tout instant mon mouchoir, c'est alors que je me livre à la composition. C'est ainsi que deux fois j'ai été indisposé cet hiver, et chaque fois j'ai apporté une nouvelle pierre à mon édifice. Cet édifice, c'est le prince Igor. » J'ai déjà composé une grande marche polovtsienne, écrit Borodine. Un air pour Yaroslavna, la complainte de Yaroslavna au dernier acte, un petit cœur de femme au camp des polovtsi, des danses orientales, car les polovtsi étaient un peuple d'Orient. J'ai réuni de nombreux matériaux, j'ai terminé plusieurs numéros. Mais quand aurai-je fini ? Je l'ignore. Mon seul espoir est l'été. Mais l'été, je devrais terminer l'orchestration de ma deuxième symphonie, promise depuis longtemps à qui de droit, et qu'à ma honte, je n'ai pas encore achevé. Oh. En juin 1876, 7 ans après avoir commencé son Prince Igor, Borodine écrit à une amie. « Vous me demandez des nouvelles d'Igor. Quand je parle de cet ouvrage, je suis obligée de rire de moi-même. Le temps vole avec la rapidité d'un express. Les jours, les semaines, les mois, les hivers passent sans que je puisse penser à m'y mettre sérieusement. Je ne dispose pour cela que d'une partie de l'été. L'hiver, je ne puis composer que quand je suis malade et que je dois renoncer à mes cours et à mon laboratoire. » Aussi, mes amis, au mépris de l'habitude, ne me disent-ils jamais « portez-vous bien », mais « portez-vous mal ». À la Noël, j'ai eu la grippe. Je n'ai pu mettre le pied au laboratoire. Je suis restée chez moi et j'ai écrit le cœur d'action de grâce du dernier acte d'Igor. En été, je compose davantage, parce que je compose en pleine santé. J'ai écrit en tout un acte et demi sur 4. Je suis contente de ce que j'ai fait. Mes amis également. Le chœur d'action de grâce, exécuté par l'orchestre de l'école gratuite, a obtenu un grand succès et c'est un encouragement significatif pour la destinée de mon œuvre. À l'époque de Borodine, en Russie, avec les ouvrages de Serov et de Dargomirski, c'est un type nouveau d'opéra qui est à la mode, où les scènes se poursuivent librement en suivant l'action, avec un débit proche du récitatif, à l'opposé de l'ancien opéra à numéro, où des formes fermées s'enchaînent les unes aux autres, air, duo, chœur, etc. Mais Borodine, lui, explique « Il faut remarquer qu'au point de vue dramatique, j'ai toujours été en désaccord avec un grand nombre. » Le récitatif n'est ni dans ma nature, ni dans mon caractère. Bien qu'au dire de certains connaisseurs, je ne le manie pas trop mal, je suis plutôt attirée par la mélodie et la cantilène. Je suis de plus en plus entraînée par la mélodie et la cantilène. Borodine dit encore « Dans l'opéra, comme dans l'art décoratif, les détails, les minuties ne sont pas à leur place. Il ne faut que de grandes lignes, tout doit être net, clair et d'une exécution pratique au point de vue vocal et instrumental. Les voix doivent occuper la première place, l'orchestre la seconde. Néanmoins, sa musique a souvent un caractère symphonique, notamment les danses, qui, quoique écrites à l'origine avec chœur, sont très souvent données comme pièces d'orchestre. Et une chose est sûre, pour ses amis qui se sont chargés de terminer le Prince Igor après sa mort, il paraissait évident que les meilleures orchestrations étaient les siennes. Danse Polovtsienne du Prince Igor de Borodine, dans l'orchestration de Borodine, je précise, chœur et orchestre du théâtre Kirov, dirigé par Valérie Gergiev. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Guillaume Ledu pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Max Dosolm pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.